L'inattendu.
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 L'inattendu. On poursuit notre quête de l'inattendu. L'inattendu. L'inattendu.
L'inattendu.
Alors que vous venez d'entendre Lucène de Yakuza, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle page d'Inattendu. Nous sommes le 21 mars 2024 et il est 17h. Alors je dis nouvelle page, voyez plutôt ça à notre palmarès. C'est pas une nouvelle page qui se tourne, non non, pas d'inquiétude, vous êtes bien et toujours dans l'Inattendu. Et pour m'accompagner ce soir dans cette émission, j'accueille Yann Malik. Salut Yann Malik.
Salut Milad.
Mais dis-moi Yann Malik, qu'est-ce qui nous attend de beau ce soir dans l'Inattendu ?
Ce soir, nous recevons Sarah pour parler du festival Scénart en cours et qui est dédié à la création cinématographique étudiante sur le campus de Rennes 2. Et Corentin, jeune réalisateur qui présente son premier court-métrage au festival. Des ateliers, des projections, mais aussi des diffusions de courts-métrages sont prévus afin de sensibiliser le public aux techniques du cinéma et à différents cinéphiles. Ça commencera le 26 mars prochain, mais on en reparle tout de suite après.
Le reportage de la rédaction produit par Alice, eh bien nous reviendrons sur la manifestation de ce mardi 19 mars avec Alice, oui, qui a réuni 2500 personne à Rennes mardi 19 mars donc.
En fin d'émission comme d'habitude, ce sera l'heure de la chronique des bons plans, histoire de ne pas vous laisser en plan ce week-end, une chronique présentée à nouveau par Julien.
Mais pour l'heure, le scénario nous invite à passer au flash info de la rédaction du jeudi 21 mars 2024, présenté ce soir par Marius.
JO 2024, la Russie juge injuste son exclusion de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris.
La diplomatie russe condamne fermement la décision du Comité international olympique d'exclure les athlètes russes de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, la qualifiant d'injuste et inacceptable, selon Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Cette mesure représente une nouvelle restriction imposée en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie depuis 2022, alors que les athlètes russes étaient déjà contraints à participer sous bannière neutre depuis 2021 en raison des scandales de dopage dans le pays.
Les États-Unis vont appeler l'ONU à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Dans une interview pour le média saoudien Al Adata, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé qu'ils présenteront à l'ONU une résolution appelant un cessez-le-feu immédiat à Gaza ainsi qu'à la libération des otages. C'est une invitation inédite car les États-Unis avaient précédemment opposé leur veto à des résolutions similaires.
Un sommet à Bruxelles pour acter le retour en grâce du nucléaire dans l'Union européenne.
Un sommet se tient aujourd'hui à Bruxelles, réunissant une trentaine d'États parmi lesquels la Chine, les États-Unis et le Brésil. L'objectif, accélérer le développement de l'énergie nucléaire considérée comme un levier majeur de décarbonisation. Cette réunion fait suite à la COP28 sur le climat, où une vingtaine de pays ont appelé à tripler les capacités nucléaires d'ici 2050. Les discussions visant à établir des axes de coopération technologique et économique renforcés ont rassemblé une quinzaine de dirigeants européens, ainsi que les représentants d'autres États tels que le Canada, l'Égypte, le Japon et le Pakistan, la Corée du Sud et l'Arabie Saoudite. Cependant, en marge de ce sommet, des militants environnementaux ont manifesté contre ce qu'ils appelaient un hold-up climatique, dénonçant le risque des détournements de financement au détriment des énergies renouvelables. Des activistes de Greenpeace ont même perturbé la réunion en déployant une bannière dénonçant un conte de fées nucléaire.
Agir, un nouveau dispositif pour l'accueil des réfugiés lancé en Ille-et-Vilaine.
Agir est un nouveau dispositif pour l'accueil des réfugiés en Ille-et-Vilaine. Lancé en mars 2024, Agir assure un parcours d'intégration sans rupture aux réfugiés avec un accompagnement vers l'emploi et le logement. Ce guichet unique départemental simplifie les démarches et garantit un accueil dans un mois maximum après la signature du contrat d'intégration républicaine. L'accompagnement dure jusqu'à 24 mois avec des critères de sortie positifs incluant un logement pérenne, un emploi durable ou une formation professionnelle qualifiante. Des entretiens réguliers sont prévus avec un binôme de travailleurs sociaux pour assurer un suivi personnalisé.
Ouverture aujourd'hui de la deuxième édition du festival Salam à Rennes.
Les deuxièmes rencontres du cinéma palestinien débutent aujourd'hui à Rennes. À l'initiative des étudiantes du BDE d'arabe de l'université Rennes 2, ces rencontres auront lieu du 21 au 26 mars au programme projection de films concernant conférences, masterclass et animations dans divers lieux partenaires, cinéma du TNB, cinéma d'Arvor, Tambour, université Rennes 2 et cinéma Le Sévigné à Sesson-Sévigné. Venez découvrir la richesse culturelle et la vitalité du cinéma palestinien à travers une variété de créations artistiques, un événement incontournable pour les passionnés de cinéma et de culture.
Arrivée d'une nouvelle ligne de train entre Rennes et Paris.
des trains moins chers mais plus lents. À partir du 5 avril 2024, la société Ouigo va mettre en place une ligne de train qui va passer par Rennes, Laval, Le Mans jusqu'à Paris. L'objectif est de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir prendre le train, car le but est de combattre la hausse des prix des billets de TGV. Certes, le voyage sera moins cher, mais plus long, soit plus de 4 heures pour un Rennes-Paris.
Et oui, c'est vrai, est-ce que les voyageurs seront prêts à faire 4 heures de train pour relier Rennes à Paris? En tout cas, c'était le flash de la rédaction du jeudi 21 mars 2024, présenté ce soir par Marius.
On continue cette émission en parlant cinéma à l'occasion de la 7e édition du Festival National de Courts-Métrages par l'association Senart. Angelina reçoit une membre de l'association et un jeune réalisateur.
Et oui, Sarah Aguillard, vous êtes co-organisatrice avec Thomas de l'association Senart pour le festival. Bonjour.
Bonjour.
Et vous, Corentin Hubert-Drayard, vous êtes en études de cinéma et vous venez de réaliser votre premier court-métrage. Bonjour.
Bonjour.
Pour présenter un peu Senart, c'est une association de cinéma de l'Université de Rennes 2. Vous avez pour objectif de favoriser la pratique cinématographique en proposant à vos adhérents et adhérentes, notamment, différents ateliers tout au long de l'année, c'est ça?
C'est ça, oui. Alors, je ne suis pas vraiment dans l'association, mais j'ai déjà participé aux ateliers. Je sais qu'il y a des ateliers montage, je l'ai fait l'année dernière, qui est vraiment sympa. Et en plus, tous les ateliers sont coordonnés avec des professionnels. Donc, on a un atelier montage, un atelier maquillage... Il y a un atelier aussi pour la prise de main de tout ce qui est lumière, prise son aussi, il me semble. Et un atelier scénario aussi, il me semble. Donc, ouais, c'est vraiment pour aider les étudiants à la création, un peu sur tous les pôles possibles d'un court-métrage ou d'un film.
Donc, c'est une association essentiellement composée d'étudiants et étudiantes. C'est ce qui vous plaît pour y participer à travers cette association?
C'est ça, oui. Il y a 15 membres dans cette association et c'est que des étudiants. Et après, le reste, c'est des bénévoles. Mais en grande majorité, c'est organisé par des étudiants et avec éventuellement des intervenants professionnels qui viennent.
Et vous, qu'est-ce qui vous plaît de participer au festival en tant qu'organisatrice?
Franchement, c'est les rencontres, parce que du coup, avant, j'étais pas vraiment dans des associations ni quoi, et c'est du coup, en début d'année, Thomas est venu vers moi pour me proposer d'être en renfort sur le festival. J'ai dit oui, et finalement, je me retrouve à faire tout plein de choses, et en fait, le fait de toucher à tout, de découvrir nouvelles manières de travailler, entre guillemets, passer des appels, envoyer des mails, tout ça, enfin, tout ce qui est dans l'organisation, franchement, je trouve ça tip-top de voir enfin comment ça se passe de réaliser un court-métrage, même de recevoir les courts-métrages de plusieurs étudiants du monde entier, puisqu'on en a reçu de Montréal et de la République démocratique du Congo. Donc franchement, c'est tip-top de voir comment les étudiants travaillent un peu partout.
Alors, vous organisez du 26 au 30 mars un festival de courts-métrages, et ce depuis maintenant 7 ans, à l'affiche différents événements. Pour commencer, on va discuter du concours de courts-métrages. Pouvez-vous, Sarah, un peu le présenter en quelques mots?
Alors en gros, il y a plusieurs concours de courts-métrages. Il y a le concours de courts-métrages national, donc là c'est ouvert à tout le monde, entre guillemets. Enfin, c'est pas entre guillemets, c'est même un fait. On a aussi un concours en association avec le festival Courts-Métranges. Donc là, ce serait plutôt... Enfin, c'est une sélection de films, du coup, étranges, d'où le nom de Courts-Métranges, finalement. Et on a aussi une sélection de courts-métrages Regarde-Braise, qui passe... c'est des courts-métrages sélectionnés qui sont faits en Bretagne. À Rennes et d'autres villes en Bretagne. Et on a aussi un concours lycéen. On a reçu beaucoup moins de courts-métrages, mais il existe quand même. Et c'est la plupart, c'est les concours. Et du coup, pour le concours de courts-métrages national, ce sera diffusé dans la salle Pina Bausch tout au long de la semaine. Il y a 3 séances, le mercredi, jeudi, vendredi, de 14 à 15 heures, il me semble. Et on a fait une présélection, parce que du coup, on a eu 80 courts-métrages, plus de 80 courts-métrages, donc on ne peut pas tous les passer malheureusement. Mais la sélection est plutôt pas mal.
Et donc vous, Corentin, vous présentez votre court-métrage à ce festival. Il s'appelle La Dernière Larme. Vous êtes en 3e année de licence de cinéma. Est-ce que c'est vos enseignements qui vous ont permis de donner les clés pour le réaliser? Et comment on fait pour imaginer et enregistrer un court-métrage d'une dizaine de minutes quand on est étudiant?
Alors, je ne sais pas si tous mes enseignements m'ont aidé, mais ça a été plus un projet autodidacte, collectif. J'ai pu, d'un côté matériel, c'est vrai que l'université nous a beaucoup aidé parce qu'elle nous fournit du matériel de haute qualité sans payer, c'est vraiment gratuit, avec quelques garanties, donc ça c'est l'aspect qui est très positif. Forcément mes cours m'ont apporté un aspect dans la théorie, mais comme je préfère le souligner, c'est vraiment un travail collectif. J'ai fait appel à un metteur en scène rennais, qui fait jouer plusieurs pièces de théâtre pour l'écriture du scénario. Donc ça, c'était vraiment indépendant de la fac. J'ai pu travailler plein d'aspects, que ce soit technique, scénario. J'ai pu lui parler de plein de choses avec lui. J'ai même été voir quelques-uns de ses cours pour voir la direction d'acteur. Donc ma faculté m'a aidé, c'est vrai. Ça a été un travail assez laborieux, on va dire, parce qu'écrire un scénario, je ne pensais pas que c'était aussi compliqué, parce qu'il faut maintenir une intrigue, et à mon échelle, pour une première fois, c'était assez compliqué, donc les conseils étaient les bienvenus. J'ai même pu parler à quelques professeurs aussi de la licence, sous divers sujets, donc j'ai reçu l'aide nécessaire aussi de ma faculté et en dehors.
Donc là, vous parlez pour les caméras, etc., vous avez pu emprunter à la fac, mais après, financièrement... dans votre court-métrage, est-ce que vous avez dû acheter des choses? Comment ça se passe? Après, vous avez tourné où, etc.?
Alors déjà, j'ai tourné dans mon appartement, parce que économiquement, c'est très rentable. J'ai dû avoir quelques frais, donc tout est venu de ma poche. Je pense que j'aurais pu faire des recherches de fonds, mais je n'étais pas encore ni préparé pour le faire. Donc j'ai dépensé de ma poche. Ce qui m'a coûté plus cher, c'était les costumes, parce que j'ai fait appel à... une amie qui est couturière, Élise Duranteau. Il fallait bien acheter les costumes pour qu'ils puissent travailler sur la matière. Mais sinon, à part ça, aussi, pour ce qui est de l'affiche de mon film, j'ai fait appel à une personne qui est au Beaux-Arts de Rennes, donc j'ai dû aussi forcément payer parce qu'elle avait passé beaucoup de temps sur mon affiche. Donc, financièrement parlant, j'ai dû dépenser aux alentours de 200-300 euros pour le projet.
Et donc aussi, vous avez fait appel à des monteurs, monteuses, etc. Donc, en tant que réalisateur, vous, votre rôle, c'est d'écrire et de chapeauter lors du tournage. En quoi ça consiste?
C'est-à-dire, vous voulez dire que je sois toujours derrière... que ce soit montage, mixage, son, on va dire que j'ai des retours qui sont très fréquents, toutes les semaines. Donc, ça dépend des diverses étapes. Pour du montage, ça nous a pris 2-3 mois avec ma monteuse. Pour le mixage, son, c'est pareil, ça peut prendre de 1 mois, 2 mois... C'est un travail qui nécessite d'être toujours derrière, parce que c'est moi qui ai la vision de mon projet. Mais après, vu que c'est quelqu'un qui travaille, on va dire, pour moi, bénévolement, parce que tout est bénévole dans ces projets collectifs étudiants, ce qui est vraiment bien. Ça nous permet d'économiser encore une fois pas mal de fonds. Donc non, j'ai été derrière à chaque fois.
Et donc, trigger warning suicide. Votre cours, sans le spoiler, parle donc de l'envie de mourir. C'est une envie de montrer ce que beaucoup de jeunes peuvent vivre. D'où vous est venue l'idée?
C'est m'est venu d'idée en fin de première année, c'est là que j'ai commencé à écrire le scénario, donc on va dire qu'il a débuté de fin de ma L1 jusqu'à fin d'été 2023, avant de tourner en novembre. C'était une période en première année où je me sentais pas bien du tout, on va dire, ni dans ma peau vulgairement, ni dans ma vie, et j'avais envie de travailler sur un personnage qui se sentait pas bien, et je l'ai tourné, on va dire, dans un aspect horrifique. Je vais pas divulguer toute l'intrigue, si vous voulez le voir, on sait jamais. Donc j'ai essayé de travailler ce ressenti d'un mal-être, et j'ai essayé aussi humblement possible de le retranscrire à travers un de mes personnages principaux.
Et donc vous avez pris combien de temps en tout pour écrire le scénario?
Ça s'est étalé, on va dire, sur 2 ans, parce que j'ai quelques phases d'écriture, on va dire. Quand j'avais la détermination, je pouvais enchaîner. Et quand j'en avais plus, j'ai arrêté pendant 2-3 mois. C'est pour ça que ça m'a pris 2 ans. Si je m'étais vraiment mis à fond, à 100% dedans, je pense que ça m'aurait pris 3-4 mois.
Oui, j'imagine que c'est quelque chose, on ne doit pas se forcer à écrire. Il faut forcément, pour que ce soit un beau produit, qu'on ait justement l'envie de le faire. Enfin, voilà, peut-être.
Il faut l'envie, et puis écrire, c'est quelque chose qui est aussi complètement différent de réaliser. Parce que écrire une histoire, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une intrigue, c'est amener les gens là où on veut les amener, faire passer un message. Moi, je sais comment faire passer des émotions à travers des mouvements de caméra, mais écrire une histoire, c'est complètement différent pour moi. Donc c'était pas simple, et selon les motivations, oui, j'ai écrit plus ou moins.
Et c'est important pour vous, Sarah, à travers Scénart, de donner la possibilité à ces étudiants et étudiantes de pouvoir partager leur art et de façon plus générale les aider dans la création?
Bah oui, justement, parce que je trouve, de mon point de vue, que c'est pas parce qu'on est étudiant qu'on peut pas écrire de scénario, qu'on peut pas réaliser. Et justement, le fait d'avoir organisé ce festival, du coup, le festival de court-métrage étudiant créé par des étudiants, c'est vraiment mettre en avant cette création qui n'est pas forcément mise en avant dans différents festivals. Enfin, je dis vulgairement le festival de Cannes, mais il n'y a pas forcément je ne sais pas trop, mais peut-être qu'il y a une catégorie étudiant, mais je doute un peu. Mais ouais, mettre là uniquement le festival étudiant en avant.
Et justement, Corentin, vous qui venez de réaliser votre premier court-métrage, c'est compliqué après de trouver un lieu, un festival pour le montrer et l'exposer ?
Il y a quelques sites qui sont disponibles, mais ils sont majoritairement payants. Je viens de me renseigner que très récemment sur les différents festivals qui ont lieu en France. Malheureusement, ils sont souvent en mars et les appels étaient en janvier. Donc mon montage, mon court-métrage n'était pas encore fini. J'avoue que ce n'est pas quelque chose dont on nous parle énormément, ni dans nos cours. Et c'est souvent des courts-métrages qui sont professionnels, qu'on peut le voir par exemple dans la catégorie des Césars. On ne peut pas rivaliser, on va dire, dans ce genre de catégorie. Donc c'est pour ça que le projet de festival étudiant est très bien, parce que ça permet à notre échelle de pouvoir conquérir dans différentes institutions, on va dire.
Tout à l'heure, Sarah, vous le disiez, vous avez reçu beaucoup de propositions de courts-métrages. Sur quels critères vous êtes basé pour la sélection ?
Je pense que c'était plutôt un critère général, parce qu'on ne voulait pas mettre forcément certaines choses en avant, par exemple, entre guillemets, le matériel, puisqu'on n'est pas tous à la même échelle. Donc, on ne peut pas prendre l'aspect, par exemple, de l'image, enfin, la qualité, entre guillemets, de l'image. On ne peut pas mettre ça comme critère d'évaluation, entre guillemets. Donc, c'est vraiment l'aspect global, que ce soit, du coup, pas l'image, mais la manière dont c'est réalisé et le scénario en lui-même.
Parce que j'imagine que c'est dur, parce que c'est très personnel, la perception de chaque court-métrage.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que, comme on est plusieurs, on a tous une vision bien différente, mais on arrive quand même à s'entendre sur ça.
Et c'est tous les bénévoles de Cénart qui sont mobilisés pour regarder. Est-ce que vous avez créé un jury ?
On avait un petit jury. Enfin, du coup, dans Cénart, il y a Cénart en cours. Du coup, c'est pas vraiment les mêmes personnes dans les deux. Et du coup, ouais, on a créé un jury spécial Cénart en cours avec les bénévoles du festival.
Et est-ce que justement, quand on construit un film, Corentin, on pense un peu au code cinématographique du moment qui marche ? On pense au public peut-être qui va le recevoir ou pas du tout ?
J'avoue que je ne me suis pas du tout posé ce genre de questions, parce que je peux regarder des films contemporains comme très anciens et je prends ce qui me plaît. Parce qu'on va dire que le cinéma, ça se réécrit au fur et à mesure, ce qui était contemporain avant ne l'est plus maintenant. Donc les codes changent, les significations changent, donc il faut avoir un regard, je pense, qui est souvent nouveau. Donc moi, je me suis dit, tel mouvement de caméra ou telle chose dans l'histoire veut signifier tant pour moi, donc je m'inspire de mes pairs.
Alors pour visionner ces courts-métrages, c'est à l'Arvor le 29 mars à 17h, puis la remise des prix à 20h au Champ Libre. Vous êtes excité à l'idée de montrer votre court-métrage au public ?
Alors déjà, je suis très très fier parce que c'est un objectif qui s'accomplit beaucoup plus tôt que prévu. Parce que voir mon court-métrage sur un écran de PC ou sur une télévision, c'est quand même autre chose que de le voir dans une salle de cinéma. Dans des sièges de cinéma, dans le noir, c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai cadeau que me donne ce festival. Donc je le prends et j'en suis très fier, même de passer à la radio. Donc je vous remercie aussi au passage.
Bon, ouais. C'est normal. Et donc, Sarah, donc, il y a d'autres événements comme une projection dans une piscine ou encore des rencontres avec des réalisateurs RIS comme Paul Marquez Durat. Comment vous avez choisi cette programmation ? Comment ça s'est fait ?
Alors, pour les conférences, par exemple, il y a une personne en particulier qui s'en occupe, Hippolyte, et il a contacté... Enfin, oui, c'est ça, il a contacté des gens qui étaient plutôt situés en Bretagne vu que le festival est à Rennes. Par exemple, Paul Marquez Duarte était en licence de cinéma, si je dis pas de bêtises, à Rennes 2, donc c'était vraiment le lien qu'il fallait faire, entre guillemets, un ancien étudiant qui fait beaucoup de courts-métrages, hop, petite conférence, et voilà. Et pour l'autre conférence, je me rappelle plus exactement du nom, Damien Le Délésir, pardon. Et lui, il me semble que il est par exemple créateur de contenu pour le Festival de Cannes. Il est également comédien et voix de doublage, pardon. Et il est basé en Bretagne aussi. Donc, c'était déjà des conférences avec des intervenants bretons, entre guillemets. Et au niveau des... Je me rappelle plus du début de la question, désolée.
Comment vous avez choisi cette programmation ?
Ah oui, du coup, on a le Ciné-Piscine. Qui est le jeudi de 19h à 20h45. Et là, on a essayé, dans les courts-métrages qu'on a reçus, de sélectionner des courts-métrages qui avaient un peu un rapport avec l'eau. Bon, pas tous, mais en grande majorité, oui. On a les ciné-transat, du coup, qui sont en salle Pina Bosch le mercredi, jeudi, vendredi. Et là, c'est exclusivement réservé à la compétition de courts-métrages national. Donc, tous ceux qui ont été sélectionnés sont là. Et par contre, pour court-métrage, c'est en ligne. Il n'y a pas de séance spéciale.
Et ça a été dur de mobiliser, par exemple, la piscine ou l'Arvor, etc., pour qu'ils participent à votre festival.
Pour la piscine, il y avait déjà eu un ciné-piscine, il me semble, lors de la 6e édition, ou même l'année dernière, enfin, 6e édition, ouais. Donc, c'était plus facile de refaire ça, vu que ça avait déjà fonctionné une première fois. L'Arvor, pareil, je crois qu'il y avait eu l'année dernière déjà une projection là-bas. Tout n'est pas gratuit, malheureusement. Donc, il a fallu avoir des fonds qui ont été, entre guillemets, gentiment donnés par la fac pour pouvoir payer toutes ces petites projections.
Et justement, parlant des fonds, comment ça se passe? Vous avez dû faire une demande à la fac pour qu'ils vous donnent un budget? Est-ce que c'est vous qui avez demandé le budget? Est-ce qu'ils font ça pour toutes les associations? Comment ça s'est passé?
Alors, normalement, il me semble que le FSDIE donne pour les associations sur dossier, du coup, de l'argent pour des projets. Mais ouais, on a fait plusieurs devis, que ce soit l'Arvor, que ce soit, par exemple, pour samedi, le drive-in. Il a fallu faire aussi un devis et tout ça est envoyé après au FSDIE et d'autres endroits pour avoir les montants pour pouvoir payer les frais.
Est-ce qu'il faut le dire, donc, tous les événements sont gratuits.
Oui, c'est ça.
Donc c'est important pour vous de rendre ça accessible vu qu'on s'adresse aussi à des étudiants et étudiantes, ben, tout le monde n'a pas forcément les moyens.
Oui, c'est ça. Donc tous les événements sont gratuits, ouais.
Et donc, justement, vous le disiez, un drive-in en collaboration avec Silab qui diffusera donc notamment la bande-son du film Portrait de la jeune fille en feu en direct sur nos antennes 88.4. Alors, comment ça va se dérouler? On arrive à 18h15, est-ce qu'il faut une voiture?
Alors, du coup, oui, on arrive, enfin, en tout cas, pour les voitures, ce serait mieux d'arriver à 18h tout court, histoire de tout installer. Et par contre, le film commence, il me semble, à 19h30. Et comme on est étudiant, et même en général, tout le monde n'a pas le permis, tout le monde n'a pas une voiture. Du coup, il y a un dispositif piéton avec des transats. Donc pareil, il y aura des petits transats devant pour les gens qui n'ont pas de voiture pour le drive-in.
Risque de bouchon?
Normalement, on espère que non. Tout devrait être bien organisé pour ça.
Et est-ce qu'il faut s'inscrire en ligne ou pas pour tous les événements?
Alors oui, justement, tout est gratuit, mais il faut s'inscrire en ligne parce que les places sont limitées, par exemple, à l'Arvor pour du coup la projection Regard de Braise. Il n'y a pas une infinité de places dans la salle, du coup il faut réserver et tout ça est sur notre Instagram en bio. Il y a un petit lien, Linktree, et là il y a un espèce de petit questionnaire et il faut s'inscrire dans les différents événements, même les ateliers, tout est gratuit mais il faut s'inscrire.
Eh ben, je vous remercie Sarah, co-coordinatrice du festival du court-métrage de Seine-Art, d'être venue, et Corentin, jeune réalisateur aussi dans les plateaux de Silab.
Merci à vous.
Merci.
On rappelle que leur festival se déroule du 26 au 30 mars. Pour avoir l'entièreté de la programmation, rendez-vous sur leur Insta, Seine-Art en cours.
L'inattendu sur Silab, 17-18h.
Et pour tous les réalisateurs, hein, qui défendront leur projet, que n'oublieront pas la cravate. D'ailleurs, Timothée, notre technicien, en a une petite vingtaine. Tout de suite, on fait une première pause musicale avec l'artiste turco-américaine Inji, un véritable phénomène qui aime mettre quelques kicks et faire la fête, mais surtout qui enjolive nos oreilles. Très présente sur les réseaux sociaux, Sexy continue de percer depuis son arrivée en 2022 sur Spotify notamment. Elle a depuis glané quelque 1,5 million d'auditeurs et vient de sortir son nouveau titre « Hate Your Guts » tout de suite dans l'inattendu. Et voilà, et donc vous êtes toujours bien entendu, c'était Ingie et son titre Hate Your Guts.
Vous êtes toujours dans l'inattendu.
Ce sont 2500 fonctionnaires et leurs soutiens qui sont descendus dans les rues de Rennes ce mardi 19 mars pour protester contre la casse du service public. Une mobilisation qui découle d'un appel de l'intersyndicale à la grève nationale ce mardi 19 mars.
À Rennes, le rendez-vous était à 14h, place Charles de Gaulle, place connue pour ses rassemblements politiques, où a eu lieu ce mardi plusieurs prises de parole, comme celle de Fabrice Lérestif, secrétaire général de l'UDFO d'Ille-et-Vilaine, qui appelle dès le début de la manifestation à continuer le mouvement.
Quand on bloque, mes camarades! Quand on veut s'attaquer au gouvernement! Quand on veut leur dire stop! Par rapport à leur infamie, à leur vendre le camp de 10 milliards sur le dos de la fonction publique, du logement social, de l'action sociale et du reste, quand on arrête ces assassins des jours heureux, alors on s'en donne les moyens, mes camarades. Et les moyens, notamment, c'est la grève en continu.
Une grève qui, à l'échelle nationale, a été suivie par 8,8% du corps enseignant selon le ministère de l'Éducation nationale. Un chiffre important qui s'explique par la dégradation de leurs conditions de travail et un manque de moyens humains et financiers. En moyenne, il manquerait au moins un enseignant dans 48% des collèges et des lycées en France, selon un sondage du SNSES FSU publié à la rentrée 2023. Pour Xavier, enseignant et membre du jeune syndicat Semoule, syndicat énervé, méchant, optimiste, utopiste et libertaire de l'éducation, il y a également la peur d'une militarisation de l'école publique.
On est plus particulièrement interpellé par les réformes qui se succèdent là, et notamment les questions d'uniforme, de service national universel, des groupes de niveau. Quand on prépare des profs et des élèves à une forme de discipline collective par rapport à ce qu'on veut nous obliger à porter, à faire, etc., on a peur que 2027 soit déjà plié, c'est-à-dire que ça débouche sur un vrai régime d'extrême droite. Et pour nous, ces réformes-là, certes, elles ne sont pas explicitement d'extrême droite, mais elles préparent un contexte qui est très mauvais pour l'avenir de notre point de vue.
Une manifestation rennaise aux revendications antifascistes, que ce soit dans celle des élèves de lycée ou les étudiants et étudiantes des universités ou encore du côté des syndicats. Car selon Elodie, membre de Force ouvrière et de VISA, Vigilance et Initiative syndicale et antifasciste, militer pour la défense des services publics et pour une vie digne pour tous et toutes, c'est aussi lutter contre la montée de l'extrême droite.
Oui, on peut le voir d'ailleurs, cette montée du fascisme, des idées de droite sont en fait sur le terreau des baisses de conditions de vie, là où les gens cherchent un autre moyen de réussir et donc tombent dans un repli nationalisme et tombent dans le fascisme.
Une mobilisation dans laquelle se retrouvait une large diversité des personnels de la fonction publique, aides-soignantes en EHPAD, préparateurs en pharmacie, profs du premier et du second degré, animatrices, éducatrices, enseignants-chercheurs et professeurs vacataires des universités, personnels des collectivités territoriales, élèves de lycée, étudiants et étudiantes du supérieur, mais également travailleurs ESAT. Ces travailleuses en situation de handicap n'ont pas les mêmes droits que leurs collègues, c'est ce que dénonce ce travailleur en ESAT à la Simonnière de Rennes.
Je suis là aujourd'hui. Parce que on est très mal entendu par le gouvernement. On n'a pas le droit de manifester normalement, pas le droit de se syndiquer pour l'instant. Les gens sont obligés de travailler aussi jusqu'à 60 ans au moins. Et nous, c'est pas acceptable. Ceux qui ont plus de mal à travailler, ce serait bien 55.
Une mobilisation portée par des secteurs professionnels divers, mais avec les mêmes revendications, une meilleure condition de travail, une augmentation de salaire et une meilleure reconnaissance politique de leur utilité dans la société. La situation est tristement commune dans les services publics, ce qui entraîne le désenchantement de beaucoup de personnels. C'est ce que souligne Hélène, secrétaire départementale du syndicat Sud, collectivité territoriale 35, assistante sociale de formation.
On arrive aussi dans la fonction publique parce que on rentre dans un service public, donc on a un peu ça chevillé au corps. Et c'est pour ça que ça tient aujourd'hui. C'est uniquement là-dessus que ça tient. Sauf qu'aujourd'hui, on a des agents qui sont épuisés. Et vraiment, est-ce que je referais le même choix? C'est une question que je me pose régulièrement, à laquelle je n'ai pas de réponse. Je trouve que c'est difficile, je ne suis pas sûre. En tout cas, autour de moi, j'entends plein de gens qui sont en train de se demander s'ils vont s'ils vont arrêter ce travail.
Alors, est-ce que le gouvernement va entendre les revendications des travailleuses de la fonction publique? L'avenir nous le dira. Pour l'instant, cet appel à la grève nationale a su mobiliser. Selon la CGT, 100 000 personnes se sont réunies ce mardi 19 mars dans les pas moins des 130 mobilisations à l'échelle nationale.
C'était le reportage du jour présenté par Alice. Merci Alice.
Et tout de suite, on fait une dernière pause musicale avec l'artiste Ajna et son titre BNB. C'est une proposition, c'est ta proposition, Yann Malik. Tu défends un peu cette musique. Pourquoi cette musique, Yann Malik?
Je la défends complètement. J'aime bien cet artiste. Je l'ai découvert il y a environ un an et il a sorti un EP il y a moins de 3 mois avec un des titres que je préfère, du coup BNB, extrait de Boys in Basement, son EP. Voilà.
D'accord, on s'écoute ça tout de suite alors.
Attaqué sur les BF, j'dis ça comme si j'ai 5-9, mais j'suis passé heavy. Spline dans mon cartable, everyday daf, j'ai envie de la belle vie. Ouais, faut y croire, faut le vouloir. J'suis dans Paris sur un boulevard, dans l'Isle. J'ai vu tes eyes dans un couloir, t'sais que t'es dans le thème, t'es cette light dans le noir. Tu dois y croire, c'est ton pouvoir. J'écoute pas les faux frères, et les on m'a dit. J'vais écrire le beau mal de ma vie dans Paris, East all day night. J'suis né pour ces 1000 tracks posés vers mon bed. J'traînais dans les skateparks, j'tombais sur mon belly. Oh, boys do cry, je sais c'est du rappeler. J'traînais, j'ai vu Ajna, depuis j'ai fait ma musique. On a fugué dans le pass, attaqué sur les BF. J'dis ça comme si j'ai 5-9, mais j'suis passé heavy. Spleen dans mon cartable, everyday taf, j'ai envie de la pelvie. Ouais, SOS, everyday cette life, non merci. Smoke les douces, cette vie amazing. Avec les boys, on construit le basement. J'suis dans le bail, mon blast est high. J'dis j'ai money, fuck school, j'deviens high. La fougue a fait ma vie, j'suis fuck comme un ave. J'suis diff comme Beethoven, j'fou. SOS, everyday c'est life, non merci. Smoke les douces, cette vie amazing. Avec les boys, on construit le basement. Everyday c'est life, non merci. Smoke les douces, cette vie amazing. Avec les boys, on construit le basement.
C'était Ajna et son titre BNB. Dernière ligne droite dans l'inattendu, on est reparti pour un tour.
Vous êtes toujours dans
l'inattendu.
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 Et tout de suite, comme tous les jeudis, c'est l'heure de la chronique Bon Plan. Et encore une fois, c'est Julien qui nous les présente.
Bonjour à tous, bonjour Mylène. Ce week-end, pour ceux qui ont envie de réflexion, vous allez être servis. Si vous n'avez rien de spécial à faire, quoi de mieux que d'aller s'instruire en allant au Champ Libre pour le festival Nos Futurs, qui se tiendra à partir de ce soir jusqu'à dimanche inclus. Ce festival propose plusieurs temps forts et débats autour de sujets sociétaux avec des personnalités publiques. Ce sont également plusieurs jeunes qui s'investissent en animant plusieurs conférences. Aujourd'hui, nous allons pouvoir discuter de l'impact des écrans sur la santé, de la place du milieu drag dans notre société ou encore des violences sexistes. Demain, nous pourrons partager sur l'économie durable en partenariat avec l'Université de Rennes et l'IUT de Saint-Malo. Samedi et dimanche, vous pourrez parler de grossophobie ou encore de sobriété technologique. De nombreux autres débats ainsi que des concerts sont prévus. Encore une fois, au Champ Libre, jusqu'au 31 mars, vous avez la possibilité de voir l'exposition Prisme de Yann Nguema, qui met en avant des projections architecturales, des sculptures ou des images en musique. Tous ces événements sont gratuits, n'hésitez pas à nous rejoindre. Également, si le cœur vous en dit, le TNB accueille cette année l'association grecque de Bretagne, Calimera. Dans le cadre de la 17e édition des rencontres des Grecs fondeurs NEMA, à l'occasion, deux films sont mis à l'honneur. Vous avez Derrière les roseaux, réalisé par Yasmina Rouerdrou, le dimanche 24 mars à 17h15, et La Où nous vivons, réalisé par Sotris Goritsas le 25 mars à 19h30. Chaque séance est à 5 euros. On vous y attend nombreux et nombreuses.
Et on ravive, Julien, une vieille tradition.
Oui, enfin pour celles qui veulent passer une petite soirée sur le campus samedi soir, il y a une projection drive-in qui a lieu sur la façade du bâtiment et rêve, et vous pouvez le voir sur les ondes également. Cela commencera à partir de 18h15, donc vous pouvez venir avec votre voiture ou juste avec une petite radio et vous pouvez vous connecter sur ces labs. Ce sera le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma qui sera projeté.
Julien, quelques conseils cinéma, d'autres conseils cinéma pour ce week-end?
Pour ceux qui ont envie de faire une petite séance ciné ce week-end, je vous ai sélectionné quelques films qui passent à l'Arbor. Vous pouvez aller voir Dune 2, réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson. La séance dure 2h46. Ou alors, je vous propose d'aller voir Anatomie d'une chute, réalisé par Justine Triet avec Sandra Hüller et Swan Harlow. C'est un film qui a été récompensé au Festival de Cannes. A noter que vous pouvez bénéficier de ces places à l'Arbor à partir de 6 euros. Les personnes qui ont la carte sortir peuvent, elles, avoir leur place à partir de 3 euros.
Et on précise qu'il n'y aura pas de foot ce week-end en raison de la trêve internationale et donc cette semaine, pas de Stade Rennais au programme.
Eh non, pas de Stade Rennais, c'est la pause. En espérant qu'ils repartent de l'avant après la pause.
Eh bien Julien, on te remercie, on te dit à un autre jeudi alors.
Merci beaucoup, à jeudi.
Et on remercie Julien pour cette chronique Bon Plan. C'est déjà la fin de cette émission?
Mais pas d'inquiétude, on revient dès demain, mais ce sera sûrement d'autres voix, d'autres couleurs, d'autres sujets.
Dans ce cas-là, on remercie Hugo à la technique pour ce soir.
Et on vous souhaite, qu'est-ce qu'on souhaite? Une bonne soirée?
Une bonne soirée sur Syllab.
Ouais.